Vous êtes sur Radio B, je suis Martine et vous écoutez Contes et récits du monde entier. Contes et récits, c'est votre émission autour des contes, des mythes ou des épopées de toutes les cultures. Bonjour à tous. C'est vraiment super de vous retrouver sur les ondes de notre radio préférée, Radio B. Je vous présente le conte de ce mois de mars 2023. C'est l'histoire d'Askeladd. Encore une histoire de Grand Nord, me direz-vous. Oui, mais cette fois, il est question d'un jeune homme inuit qui doit affronter ses peurs pour aider son village à survivre au manque de nourriture. C'est une terre froide et dure dans le Grand Nord. Une petite tribu inuite a construit quelques igloos de pierre recouverts de tourbe pour se protéger du froid, là, au pied des collines enneigées. Dans l'un de ces igloos vivent Lumak et Askeladd. Lumak est à la fois le sage du village et le sorcier qui guérit. Il sait aussi parler aux animaux et lire les messages des ancêtres dans les étoiles. Le vieux Lumak veille sur Askeladd, qui est orphelin depuis tout jeune. Depuis son plus jeune âge, Askeladd avait appris auprès de Lumak comment devenir un chasseur expérimenté. Il connaissait les dangers sur la banquise. Il savait suivre les pistes des animaux. Aux côtés de Lumak l'été, avec son harpon, il chassait le morse dans son kayak. Mais à l'automne, la banquise est si mince qu'elle peut se briser sous les pas. Et l'hiver, quand la mer gèle et que soufflent les blizzards, il avait appris à traverser les glaciers, à éviter les crevasses, à se protéger du froid, à construire un igloo dans la neige. Ainsi, au fil des années, il était devenu un chasseur adroit, prudent, observateur et conscient des dangers. Et pourtant, Askeladd subissait les moqueries des autres jeunes de son âge. Avec leur peau tannée, leurs yeux noirs et leurs larges carrures, ils étaient très différents d'Askeladd. Le jeune homme avait la peau claire, des yeux bleus profonds et une silhouette frêle. Il se moquait de lui et disait « Alors, Askeladd, tu pars à la chasse à l'ours ?» Il se sentait souvent rejeté. Cette année-là, l'automne fut particulièrement froid. Le gibier se fit moins abondant. Aussi, quand le soleil se coucha pour la dernière fois à l'horizon sur le pays enneigé, les provisions étaient maigres. Et chacun savait que l'hiver et la nuit polaire qui commençaient allaient être durs pour tous. Le soir, quand Askeladd rentrait de sa journée, il trouvait Lumak en train de raconter sa journée de chasse aux enfants et aux adultes du village. Mais ce soir-là, un silence inhabituel régnait dans l'igloo. Lumak était concentré sur un gros morceau de bois qu'il sculptait et taillait à petits coups d'une fine lame de pierre taillée. Les enfants, silencieux, écarquillaient les yeux en essayant de deviner la forme qui allait sortir du morceau de bois. Askeladd s'approcha et dit impatient « Mais enfin, qu'est-ce que c'est ?» Lumak leva un regard étonné, s'apercevant d'un coup qu'il n'était pas seul, et dit d'un ton mystérieux « J'ai vu, dans un rêve, un animal au pouvoir extraordinaire, et je le sculpte. Je prie pour qu'il vienne nous aider. » Chaque soir, au retour de la chasse, Lumak reprenait sa sculpture. Il précisait un angle, polissait un arrondi, creusait une rainure. Mais il était de plus en plus préoccupé. Et un soir, il dit à Askeladd, « Les hommes du village sont partis à la chasse pour un jour ou deux. L'heure est venue pour toi aussi d'y aller. » Mais cette fois-ci, tu seras seul. Je ne t'accompagnerai pas. Mes forces m'abandonnent. Et toi, tu es grand et vaillant maintenant. Il est temps d'apprendre à veiller sur les tiens. Les réserves sont épuisées, alors même si le gibier est rare en cette saison, tu devras le traquer et le rapporter pour que le village survive à la famine. Partir chasser pour la première fois sans Lumak, seul sur son traîneau, c'était une aventure plutôt effrayante. Mais Askeladd savait qu'il devait se mettre en route. Dès le lendemain, le garçon attelle ses 9 chiens au traîneau. Tout son équipement est solidement fixé. Il a placé sur le traîneau des morceaux de phoque gelé pour nourrir les chiens, son arc, son harpon, des cordes, son couteau à neige, et le tout est recouvert de peaux de renne qui lui serviront de couverture. Sur le pas de la porte, Lumak lui donne un dernier conseil. Tu devras être très prudent, Askeladd. Mais s'il t'arrivait malheur, fais appel aux esprits de nos ancêtres, les Inuits. La puissance magique de leur présence t'aidera à te sortir d'un mauvais pas. Et pour cela, écoute tous les signes qui viendront vers toi. Askeladd hoche la tête, fouette ses chiens et son attelage file sur la neige, puis disparaît. Il longe d'abord la côte, puis il traverse une vaste plaine enneigée. Le vent glacé lui fouette le visage, fait givrer ses sourcils et la glace scintillante l'oblige à plisser les yeux. Après des heures et des heures de course, sans apercevoir ni renne ni phoque sur sa route, épuisé, Askeladd fait halte. Avec son couteau à neige, il construit un igloo. Il dételle ses chiens et les nourrit avec des morceaux de phoque. Puis il entre dans l'igloo, se glisse entre les peaux de renne et s'installe pour passer la nuit. Cette première journée n'a pas été bonne, pense-t-il. Demain, j'irai plus loin et je trouverai du gibier à rapporter au village. Et il s'endort, confiant. Il faisait encore nuit quand Askeladd grimpa sur son traîneau. L'équipage s'élance sur la neige, éclairé par une belle lune toute ronde. Ils traversent des glaciers, contournent des crevasses, aperçoit sur la banquise des taches noires. Enfin des phoques, se dit-il. Hélas, ce sont des rochers. Après plusieurs heures de course, épuisé, il doit s'arrêter et se préparer à passer une deuxième nuit loin du village. À l'abri dans l'igloo, il s'inquiète pour les siens. Et s'il ne trouvait rien, les autres auront bien raison de dire qu'il est un mauvais chasseur. Désespéré, il pense que Lumak avait eu tort de lui faire confiance. Après un court sommeil, il attelle les chiens et s'apprête à partir à nouveau sur la banquise. Mais avant de s'élancer, il scrute l'horizon. Il inspecte le moindre creux. Et il ne sait plus bien quelle direction prendre. Il se sent en danger. La nourriture diminue. Et il doit protéger les chiens. Il ferme les yeux pour réfléchir. C'est alors que les mots de Lumak retentissent dans sa tête. Dans le danger, appelle les esprits, ils viendront t'aider. Askeladd écoute dans son cœur les paroles de Lumak. Quand il rouvre les yeux, une magnifique aurore boréale déroule devant lui ses rubans verts et jaunes. Les lueurs dorées dansent dans le ciel, occupent tout l'horizon et semblent se déplacer vers le nord. Alors, reprenant espoir, Askeladd lance son traîneau vers le nord, dans la direction montrée par les ancêtres. Il explore l'horizon, observe le moindre rocher, recherche la moindre empreinte sur la neige, mais aucune trace de gibier. Le voilà devant une côte que l'attelage franchit difficilement. Les chiens sont fatigués. Ils parviennent à un col. La descente s'avère plus difficile encore. Arrivé dans la vallée, il se croit tiré d'affaire, mais voilà que son traîneau se coince dans une crevasse. L'arrière du traîneau penche dangereusement vers le trou et ni lui, ni les chiens n'arrivent à le faire bouger d'un pouce. Exténué, désespéré, il libère les chiens et marche dans la neige. Arrivé en haut d'un petit rocher à bout de force, il tombe et s'écroule. Les larmes commencent à couler. Elles gèlent et forment des glaçons au bord de ses paupières. Tout à coup, il entend comme un grognement qui se rapproche. Il lève la tête et discerne dans la brume une ombre inquiétante. Terrorisé, il ose à peine respirer. Il ferme les yeux. Il perçoit la masse de l'animal tout proche. Le grognement est tout près. Jusqu'à ce qu'il sente sur son nez le souffle chaud d'un museau qui le renifle. Devant lui, un immense ours blanc le regarde d'un air agressif. Mais dès qu'Askeladd ouvre les yeux et relève la tête, l'ours se calme. Il fixe le garçon, recule et fait demi-tour. De nouveau, Askeladd se prépare à passer une troisième nuit loin des siens. Au petit matin, quand il sort de l'igloo, il remarque dans la neige des traces de pattes. Aucun doute, un ours rôde dans les parages, et c'est même peut-être celui qu'il a vu hier. Askeladd se précipite, ramasse ses affaires et s'apprête à déguerpir. Mais l'ombre est déjà devant lui. Oui, c'est le grand ours blanc, rencontré la veille, qui est là, à quelques mètres. Il se déplace lentement. Et le jeune homme observe l'animal. Ils sont face à face maintenant. Alors, comme leurs regards se croisent, Askeladd découvre, ébahi, que l'ours a les mêmes grands yeux bleus que lui. Sans grogner, l'ours le flaire longuement, puis s'éloigne calmement. Rassuré par son expression tranquille, Askeladd décide de le suivre. Il marche comme ça pendant un moment, et soudain, le jeune homme s'arrête. Devant lui, un troupeau de rennes s'est regroupé au pied d'un escarpement de roche. Aussitôt, le chasseur prend son arc, tire et touche deux animaux. Il partage le premier renne avec l'ours et ses chiens. Il met le second en réserve. Et les voilà qui continuent encore leur chemin, Askeladd suivant l'ours. Plus loin encore, suivant le chemin de l'ours, Askeladd découvre une colonie de phoques qui se repose sur la banquise. Le chasseur vise avec son arc et sacrifie deux ou trois phoques. Et à chaque fois, l'ours semblait lui montrer les endroits où trouver la nourriture. Mais il faut maintenant débloquer le traîneau. Retrouvant l'endroit, Askeladd attela à nouveau les chiens et les encouragea à tirer. Mais rien à faire. Ils sont impuissants à le remettre sur le sol. Et l'ours était là, tranquille. Askeladd s'approche de lui et lui adresse doucement une prière muette en le regardant. « Tu veux bien m'aider, dis, s'il te plaît. » Il enroule la corde autour de l'épaule avant de l'animal. Et tous ensemble, ils tirent de toute leur force. Et le traîneau sort de la crevasse. Maintenant, il peut rentrer au village. Plus personne ne se moquera de lui. Le jeune homme se retourne vers l'ours. Lentement, il approche sa main près de son museau. Tout près, face contre face, il se regarde. Askeladd plonge dans le regard bleu de l'ours pour lui dire toute sa gratitude. Il lui semble que c'est un frère qui lui transmet les messages de ses ancêtres. « Tu es un vrai chasseur inuit maintenant. » Askeladd rentra chez lui très tard. Le vieux chaman dormait paisiblement sous ses couvertures de renne. Le regard du jeune homme s'arrêta sur une étagère. La sculpture était terminée. C'était un magnifique ours blanc, à l'expression tranquille et bienveillante. Il avait l'air presque vivant. S'approchant de l'ours sculpté, Askeladd s'aperçoit stupéfait que l'oumak avait placé deux petits cailloux pour représenter les yeux de l'ours. Deux petits cailloux bleus, d'un bleu intense et mystérieux, tout juste comme ceux du grand ours blanc. Eh bien, voilà l'histoire d'Askeladd. J'ai découvert cette histoire dans la littérature jeunesse. J'ai adapté le texte de Anne Archambault, publié aux éditions Pierre Vallot. Chez les Inuits et les Algonquins au nord du Canada, l'ours est appelé grand-père. Il est l'ancêtre protecteur, directement lié à la terre-mère, aux profondeurs, aux forces primitives. Vous retrouverez dans le texte du podcast quelques éléments supplémentaires concernant la symbolique de l'ours qui est très riche. Vous avez entendu successivement des extraits de Fur Alina d'Arvo Pärt, un compositeur estonien. Ce morceau, pour Aline, a été composé en 1976. Puis, une flûte amérindienne exprimant le lien à la terre-mère, issue du site Son de la conscience. Un morceau d'inspiration celtique, extrait de l'album Velours, composé par Peter Gundry. Un morceau intitulé « Les arbres de la forêt » de Kevin MacLeod. Un solo de percussion, extrait d'un site présentant des musiques de relaxation. Et enfin, un morceau d'inspiration indienne joué sur des percussions de hangpan et de tabla. N'oubliez pas la rediffusion ce dimanche à 15h. Et tous les podcasts disponibles à la rubrique Fiction dans le menu Émission. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis au mois prochain sur Radio B, les bonnes ondes.